Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en faisant acception de personne. Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or, en vêtements éclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les vêtements éclatants, et que vous disiez, « Toi, assieds-toi ici à ton aise », et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout », ou « Assieds-toi ici, au bas de mon marchepied », n'avez-vous pas fait une distinction en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne sont-ce pas eux qui vous tirent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si en effet vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez le péché et vous êtes convaincu par la loi comme transgresseur. Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tous. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas adultère » a dit aussi « Tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Ainsi parlez et ainsi agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi j'ai des œuvres ». Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie, qui dit, « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. » Elle a été appelée amie de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.
Nous avons vu dans le chapitre premier, et un petit résumé pour introduire le sujet pour ce soir, qu'un chrétien mûr a de patience dans les épreuves. Et ce chapitre est divisé en deux sections. Premièrement, les versets 1 à 12, intitulés « Comment transformer les épreuves en triomphe ». Et la deuxième section qui commence donc avec le verset 13 jusqu'au verset 28, « Comment savoir manier des tentations ». Vous avez déjà donc la distinction entre « test » et tentation, épreuve et tentation. Dieu teste, Dieu preuve, scrute, examine pour le bien, pour faire sortir ce qui est agréable pour lui. Satan tente et il est aidé par ce bastion qui habite en nous, la chair et le péché. Dieu ne tente pas. Voilà donc. Les épreuves, les tests sont nécessaires. Pas pour que Dieu sache que nous sommes réels, mais afin que nous sachions, nous, que nous avons, et que les autres aussi le sachent, que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Parce que c'est une chose que de dire je suis chrétien, et c'est une autre chose que de manifester la vie de Christ en nous. Donc, nous avons vu déjà que l'apôtre Jacques insiste que nous devons donc obéir à quatre impératifs dans les versets 1 à 8. Premièrement, c'est il faut estimer, verset 1er, avec une attitude de joie. Nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire que de joie, c'est de se reposer dans les bras du Seigneur et savoir qu'il nous aime, s'il permet des épreuves dans nos vies. Verset 3e, il faut savoir que les preuves sont nécessaires pour peu de temps. Ayant donc un entendement qui comprend. Nous comprenons que Dieu a son plan pour nos vies et c'est pour cela que nous nous soumettons à sa volonté. Troisièmement, dans le verset 4, permettre et donc coopérer avec le Seigneur afin qu'il puisse agir dans nos vies, manifester une volonté qui est livrée à Jésus, être disponible, et finalement, demander sagesse pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Voilà donc à quoi Jacques nous encourage pour obéir. La deuxième section, versets 13 à 28, comment savoir manier les tentations. Satan vient pour tenter. Nous avons déjà vu hier soir comment il fait cela. Ses ruses, ses stratégies. Il sait déjà qu'en nous, c'est la chair qu'on convoite. Nous avons des besoins, nous cherchons la satisfaction de ces besoins. Alors, Satan nous tente afin que nous agissions en dehors de la volonté de Dieu et indépendamment de Dieu. Verset 14, quelqu'un est tenté, il convoite, il désire, il est attiré et amorcé, Satan le présente attrayant, et puis il accepte cette suggestion du diable, il tombe dans le péché. Voilà des étapes. Finalement, on tombe dans le péché et le péché a comme fin la mort. Donc il faut considérer la sévérité de Dieu. Dieu est juste, il ne peut pas supporter le péché dans un croyant. L'Esprit de Dieu ne peut pas supporter le péché dans ta vie, dans ma vie. Il va nous convaincre et nous conduire à la repentance pour revenir, pour confesser. Et deuxièmement, si nous voyons que Satan nous tente, pour agir en dehors de la volonté de Dieu, il faut réaliser, deuxièmement, le verset 16 et 17, la bonté de Dieu. Dieu est bon, il est toujours prêt à nous donner tout dont nous avons besoin. Et alors, savoir cela, la bonté de Dieu, qui désire nous donner tout dont nous avons besoin, nous laisse tranquilles dans ses mains et ne pas agir indépendamment de lui. Aussi, une troisième considération dans le verset 18, c'est le fait que nous avons cette nouvelle nature de Dieu. Et cette nature ne pêche pas, ne pratique pas le péché. 1 Jean 3, verset 9. Nous avons cette nature en nous. Et aussi l'Esprit de Dieu, la puissance pour dire non aux tentations du diable, non au péché, non au monde, non à ce moi, à cette chair qui habite en moi. Non. Et nous avons été donc engendrés, verset 18, par cette parole de la vérité. Nous sommes des enfants de Dieu avec sa nature. Et finalement, c'est là où nous sommes arrêtés hier soir, verset 19 à 27. Il ne faut pas que nous nous séduisions nous-mêmes. Comment donc? Il faut être réel, honnête devant cette parole. Ne pas prétendre. Et c'est exactement cela que l'apôtre Jacques insiste là-dessus, qu'il y a des réalités de notre vie. Il ne suffit pas d'avoir doctrine, connaissance, confession, profession extérieure, mais réalité de nos vies. Réalité. Alors, il dit donc, ayons cette réalité, ne pas vous séduire vous-même. Et il nous montre trois responsabilités en rapport avec cette section 19 à 27. Premièrement, il faut recevoir la parole de Dieu. Cette parole est donc décrite comme une parole implantée, donnée. Moi, je ne produis pas cela. C'est Dieu qui l'implante dans ma vie. Cette parole qui est enracinée. Il faut donc le recevoir. Et cette parole m'enseigne plusieurs choses. Premièrement, elle m'enseigne d'écouter. Et vous vous souvenez encore cette histoire de David, quand il était loin, qui s'enfuit devant le roi Saül, et qu'il a exprimé un souhait, un désir. Oh, si quelqu'un pouvait vraiment m'apporter de l'eau de Bethel. Et deux de ses serviteurs ont entendu, ce n'était pas un commandement, mais ils ont entendu, ils sont allés, et ils se sont sacrifiés pour apporter cette eau à David, qui n'a pas bu, il a versé, parce que c'était... Ça représenta pour David leur vie. Voilà, c'était des serviteurs qui n'avaient pas besoin de commandements, mais qui étaient à l'écoute, qui connaissaient le désir, le cœur de David. La parole nous enseigne aussi, c'est pas toujours nécessaire d'insister sur un commandement, oui ou non. Nous connaissons le cœur de notre Seigneur Jésus, ce qui lui plaît. Deuxièmement, nous devons être lents à parler. C'est Proverbe 10, 19 qui dit « Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. » Et aussi, lent à la colère, Proverbe 14, verset 29, « La lenteur à la colère est grande intelligence, mais celui qui est d'un esprit impatient exalte la folie. » Les Anglais s'expriment parfois très directement, et quand nous pensons à cette colère, c'est donc un tempérament un peu chaleureux. Alors, quelqu'un a remarqué, le tempérament est une chose tellement précieuse, c'est dommage de le perdre. Alors, ne perdons pas notre tempérament, notre colère. Laisse la vengeance au Seigneur Jésus. Laisse la défense de soi-même à Jésus-Christ. Il sait très bien. Voilà donc un cœur préparé par la parole de Dieu. C'est comme un jardin avec cette parole implantée. Pas de mauvaises herbes, sont toutes enlevées, cette saleté, malice, dont nous lisons. Et après avoir reçu cette parole dans nos cœurs, maintenant il faut la mettre en pratique. Et c'est bien le verset clé que nous avons vu, verset 22. Ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Mettez la parole en pratique. Il faut donc s'examiner soi-même et ne pas oublier. Se laisser examiner par la parole chaque matin, chaque jour, comme on regarde dans un miroir. et ne pas refuser ce qu'on voit. C'est la parole qui nous aide à comprendre ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu et le juger. Ne pas oublier ce que la parole nous a montré. Pas simplement vite lire un passage ou une feuille de calendrier ou une petite portion de son de l'écriture maintenant. Et puis voilà, ça suffit et oublier, non. Mettre en pratique, le vivre. Et alors par cela, nous pouvons expérimenter cette libération de nous-mêmes, de toutes les choses qui ne plaisent pas au Seigneur Jésus. La libération, il dit bien dans ce verset 25, la loi parfaite, celle de la liberté. Je reviens encore dans le chapitre 2e à cette expression. Qu'est-ce que c'est que cette loi parfaite, celle de la liberté? Nous avons déjà compris, c'est donc quelque chose qui nous libère de tout esclavage. Esclavage du péché, esclavage du monde, aussi de nous-mêmes. Nous serons donc libérés pour faire la volonté de Dieu. Nous devons donc être des faiseurs d'œuvres et ne pas seulement dire ou parler, mais faire dans la puissance de l'Esprit Saint. Agir donc. Et agir donc, nous voyons cela dans les versets 26 et 27. Comment est-ce qu'il faut agir? Donc, premièrement, il faut maîtriser sa langue, qui tienne sa langue en bride, et aussi servir les autres. Se maîtriser, servir et partager. Partager ce que nous avons reçu avec les autres. Et les autres ici sont des orphelins, des veuves, et tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Se conserver soi-même pur de ce monde. Voilà donc être réel. Voilà donc des caractères d'un chrétien mûr. Et c'est avec cette pensée que nous commençons notre chapitre 2e. Déjà aussi dans le chapitre 2e, nous avons deux divisions qui sont bien marquées. Les versets 1 à 13, nous pouvons intituler « Comment faut-il traiter nos prochains ?» Comment traiter, comment se conduire vis-à-vis de ses prochains? Qui est mon prochain? C'est mon frère? C'est ma sœur? Comment se conduire vis-à-vis de sa sœur, de son frère? On peut bien demander comment Jésus aura-t-il agi à ma place? C'est toujours bon de se demander cela. Comment Jésus aura-t-il agi à ma place? Et deuxième section, c'est bien du verset 14 jusqu'au verset 26, c'est la fausse et la vraie foi. Voilà deux grandes sections de ce chapitre 2e. La parole en pratique. Le chrétien mûr donc manifeste la patience dans les épreuves et met en pratique la parole. Mais des gens superficiels parlent beaucoup de leur foi, mais le croyant mûr vit sa foi. Il vit sa foi. Il n'en parle pas simplement. Il le vit, il le manifeste, il le montre. Écouter la parole, c'est excellent. Et parler aussi de sa parole, mais ce ne sont pas des substituts pour la pratique. La pratique est excessivement nécessaire. C'est souligné, ce sont des œuvres. Nous allons voir là. Cette liaison entre croire, avoir la foi et les œuvres, c'est quelque chose que malheureusement Martin Luther n'a pas compris. C'est pour cela qu'il a dit « c'est une épître de paille ». Il n'a pas compris l'enseignement de l'apôtre Paul d'un côté et l'enseignement de Jacques de l'autre côté. Mais ces deux frères, ces deux écrivains, ils se contredisaient pas du tout. Nous allons voir cela. Ils approchent le sujet de différents côtés. Par exemple, on pourrait dire en quelques mots, pour lier l'enseignement de l'apôtre Paul et Jacques, un petit poésie. Juste devant Dieu, par la foi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Juste devant les hommes, par les œuvres. C'est Jacques. Juste par les œuvres de la foi, juste par la foi qui œuvre. Voilà en quelques petits mots une réconciliation, pour ainsi dire, une liaison entre l'enseignement de l'apôtre Paul et de Jacques. Et voilà, pour revenir donc, Jacques examine donc dans ce chapitre quatre doctrines fondamentales que nous acceptons tous. Mais il ne s'agit pas simplement d'accepter la doctrine, d'avoir connaissance. Il y a beaucoup de doctrines dans la parole de Dieu. Pour mentionner ici, dans votre feuille, la divinité de Christ, versets 1 à 4, et on trouve cela dans le verset 1er, par exemple, où Jésus est intitulé « Notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire ». C'est sa divinité. Nous croyons, nous acceptons tout cela. Mais ça ne suffit pas de simplement accepter cette doctrine. Comment est-ce que on peut la manifester dans sa vie qu'on croit réellement dans cette divinité de Christ, le Seigneur de gloire? On va voir cela dans quelques instants. Une deuxième doctrine, c'est la doctrine de la grâce de Dieu, versets 5, 6 et 7. C'est le fait que Dieu a choisi, il a élu. Et cette élection, ce n'est pas mérité, ça vient du cœur de Dieu par pure grâce. Personne ne mérite quelque chose. On l'avait déjà dit ici souvent, la grâce, ça veut dire que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, le jugement. La grâce de Dieu. Et puis, troisièmement, la parole de Dieu, son efficacité, sa puissance, pleinement inspirée par l'Esprit, verset 8 à 11. Et là, vous voyez dans le verset 8, « Si en effet vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, la parole », nous trouvons là tout ce qui est écrit pour notre instruction, pour mettre en pratique. Parce que le chapitre Dieu parle de cela. Le sujet, le titre du chapitre 2, c'est que les chrétiens mûrs mettent en pratique la parole. Encore une quatrième doctrine, c'est la doctrine du jugement final. Il y a un jugement. Et c'est très sérieux d'en penser dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on ne fait pas. Qu'il y a donc le tribunal de Christ devant lequel nous devons nous trouver chacun et chacune de nous. Donc, vis-à-vis de cela, vis-à-vis de ces quatre doctrines, quelle doit être notre conduite, notre comportement vis-à-vis de nos frères et nos sœurs? Comment est-ce que nous traitons vraiment notre frère et notre sœur? Finalement, la fausse foi et la vraie. Voilà donc. Est-ce que nous acceptons ces quatre doctrines, ce que la parole nous enseigne? Premièrement, nous voyons dans le début, les premiers quatre versets, la divinité de Christ, qu'on a foi en Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Mes frères, n'ayez pas la foi en Jésus-Christ. Et vous faites exception de personne. Faire exception de personne et dire que j'ai cru en Jésus-Christ, c'est une contradiction en termes. C'est un total paradoxe. Ça ne peut pas. C'est une impossibilité. Nous voyons dans cette section que ceux qui faisaient donc cette distinction, ceux qui regardaient un homme riche et ceux qui regardaient un homme pauvre et qui agissaient d'une manière déshonnête, il manifestait donc un mauvais esprit. J'aimerais l'appliquer peut-être dans un autre sens, mais pas loin de la signification de cet enseignement que nous avons. Nous pouvons penser ici à quelqu'un de ses frères dans la synagogue qui a agi vis-à-vis de ce frère pauvre, qui est devenu donc une cause d'une pierre d'échoppement. Et je lis un passage dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, où le Seigneur parle des mots très sérieux. Et verset 6. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits, vous pouvez mettre ici un de ces pauvres, un de ces humbles, un de ces jeunes en Jésus-Christ, un de ces nouveaux convertis, et qui est une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendût une meule d'âne au cou et qu'il fût noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Oh, mes chers amis, est-ce que nous réalisons le sérieux de ces mots? Il y en a donc, parmi les enfants de Dieu, des pauvres et des riches. Il y en a ceux qui sont instruits, des frères et sœurs qui connaissent le Seigneur 40 ans, 50 ans. Il y en a aussi des jeunes, nouveaux convertis, peut-être 2 ans, 5 ans. On ne peut pas exiger que ces jeunes sont au même niveau d'un frère de 40 ans dans la foi. Donc, vous voyez le sérieux, si un frère d'une telle spiritualité, d'une telle connaissance des doctrines, agit d'une manière qui sera donc une occasion de chute pour des jeunes, combien c'est grave. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire avec une telle personne qui est donc une cause de chute pour un pauvre, pour un moins instruit, pour un jeune, pour un petit qui croit en Jésus? Oh, Jacques est très sévère dans ce qu'il écrit. Oui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous l'aimons et qu'il est Seigneur Jésus-Christ. Verset premier. Nous avons donc accepté la seigneurie de Christ dans notre vie. Et nous croyons aussi cette seigneur de gloire. Imaginez-vous, celui qui a créé tout l'univers, qui est enveloppé, qui habite dans la gloire, que personne ne peut pénétrer, même les anges se couvrent leur visage et leurs pieds. Celui-là, ce seigneur de gloire, s'est anéanti lui-même et est devenu pauvre. Il est devenu pauvre, il a choisi d'être pauvre. Il n'avait pas une maison pour lui-même, pas son lit à lui. Il a choisi une maman extrêmement pauvre qui ne pouvait même pas apporter les sacrifices nécessaires pour sa circoncision. Ce Seigneur, il n'avait pas même une chambre pour être avec ses disciples le dernier soir de sa vie. Ce Seigneur n'avait même pas son propre tombeau pour être enseveli. Le pauvre. Voilà, nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Jésus-Christ, ce Seigneur de gloire. Alors, quelle doit être notre conduite, donc? Verset 12, c'est notre verset clé. Ainsi parlez et ainsi agissez, comme devant être jugés par la loi de la liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Je reviens encore. J'ai intitulé ces versets 12 et 13 l'effet d'un boomerang. Vous connaissez le boomerang, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on emploie en Australie. On le jette et ça revient sur la tête. Celui qui ne montre pas la compassion. Celui qui ne manifeste pas une considération pour jeune, pour pauvre, pour petit, il aura le boomerang qui revient sur sa tête. Voilà les deux versets qu'il nous le décrit. Donc c'est une chose que de dire, je crois en Jésus-Christ. Si vous voulez encore lire à la maison 1 Jean chapitre 1 et chapitre 2, là dans le verset 8, vous lisez chapitre 1, celui qui dit. Le verset 10, celui qui dit. Chapitre 2, verset 4, celui qui dit. Verset 6, celui qui dit. Le verset 9, celui qui dit. Voilà quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui dit. Et maintenant, l'apôtre Jean nous invite, eh bien, assieds-toi. Tu dis quelque chose. Tu dis chrétien, eh bien, quels sont les caractères de la vie de Christ en toi? Comment est-ce que Jésus-Christ que tu confesses, dans lequel tu crois, tu l'as reçu comme ton Seigneur, comment sa vie se manifeste en toi? ça ne suffit pas de savoir la doctrine, mes chers amis. Il ne suffit pas même de pouvoir citer par cœur Matthieu 18, 20, là où deux, trois se rassemblaient, mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne suffit pas simplement de le citer, mais de le vivre. Et de le vivre d'une quelle manière? Avoir le Seigneur Jésus comme exemple. Ne pas être une occasion de chute pour ceux qui ne sont pas au même niveau que moi. Ils ne sont pas si riches que moi. Vous vous estimez riche spirituellement en Jésus-Christ, vous avez beaucoup de connaissances. Eh bien, bienheureux. Mais il ne faut pas abuser votre position comme un enfant de Dieu de 20 ans, de 30 ans, et de négliger les besoins que ceux qui ont moins que vous. C'est exactement ce qu'on faisait dans la synagogue, dans les versets 1 à 4. Voilà un riche qui entre, et eh bien il est déjà rencontré, n'est-ce pas, ceux de la synagogue, les serviteurs de la synagogue, entrez seulement, il avait des vêtements, une bague d'or, voilà, pour vous, spécialement préparé pour vous, chers amis. Et puis voilà, la porte s'ouvre encore, et un pauvre, avec sa tête courbée, presque pas, regarde, il cherche une place. Et quelqu'un vient finalement lui dire, bien, assieds-toi ici. Vous pouvez vous imaginer, n'est-ce pas, la synagogue ainsi. Il faisait distinction. Il agissait d'une manière devant une telle ou telle personne, d'autre manière devant une autre. C'est de s'insinuer dans les grâces, les bonnes grâces de quelqu'un. Ou on risque de le faire aussi. Hein. Si un tel ou tel frère pense bien de moi, eh bien ça me sert plus tard. Oh, mes chers amis, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Est-ce que nous sommes arrivés dans un tel temps aujourd'hui qu'on va regarder les uns aux autres pour s'insinuer dans les bonnes grâces de quelqu'un? Peut-être plus tard ça me servira? Non, tout cela, Jacques le juge, il dit, ton Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, devenu pauvre. Ses ennemis savaient très bien que le Seigneur Jésus n'avait pas exception de personne. Il agissait droit, parce qu'il ne jugeait pas l'extérieur, le Seigneur. Il jugeait le cœur, il regarde le cœur. Nous, nous jugeons l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai peur. Excusez-moi, hein. Et nous voyons, par exemple, dans les conférences, je ne parle pas simplement de la Suisse, parce que je n'ai pas beaucoup fréquenté les conférences en Suisse, mais ailleurs, je vois qu'il y a un risque d'un certain intellectualisme biblique. De plus qu'on connaît, de plus qu'on est émerveillé par ce frère qui connaît la parole de Genèse à l'Apocalypse presque par cœur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est spirituel? Mais il faut l'accepter. Ça sera merveilleux si un frère a une forte connaissance, peut-être à cause aussi du fait qu'il a une mémoire photographique. Mais la connaissance seule, sans la piété, sans la douceur, sans la compassion, sans l'humilité, ça sert à quoi, mes chers amis? Que le Seigneur nous garde simplement de la connaissance des choses. Et qui nous aide à mettre en pratique ce que nous avons appris dans un esprit, parce que c'est Jean qui dit, celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Il faut donc étudier encore les quatre évangiles pour savoir comment le Seigneur a-t-il marché. Comment est-ce qu'il s'est conduit vis-à-vis des autres, des pauvres, des prostituées, des publicains, des pécheurs? Comment est-ce qu'il s'est conduit? Et de l'imiter. Et de ne pas avoir des exceptions de personnes. Ne pas regarder simplement l'extérieur. Et ne pas non plus juger les motifs de quelqu'un. Je l'ai déjà dit aussi. Voilà une voiture devant une maison d'un frère. Et c'est tout sale. On jugeait, on dit, tiens, il est très paresseux parce qu'il n'a même pas nettoyé sa voiture. Ou on peut aussi dire, ce frère est tellement actif dans le service du Seigneur, il n'a pas le temps pour nettoyer sa voiture. Vous voyez, deux points de vue. Mais nous jugeons tout de suite l'extérieur. Et est-ce que nous jugeons toujours? Et notre critique, elle est toujours positive? Est-ce que nous pensons toujours, ah, que c'est merveilleux de trouver quelque chose de la grâce du Seigneur dans un tel ou tel frère, une telle ou telle sœur? Nous n'avons pas le droit même de juger les motifs d'un frère, d'une sœur qui fait quelque chose pour le Seigneur Jésus. Et si nous le faisons, il faut se souvenir qu'un jour, on se trouve dans le tribunal de Christ et nous devons rendre compte de tout ce que nous avons dit ou même pensé de nous. Oui, le Seigneur a été jugé aussi. Il a été méprisé et rejeté. Il est méprisé, comme dans le verset 6. Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas, etc. Le Seigneur a été méprisé. Ah, nous avons tellement l'approbation des autres. On aime tellement qu'on pense bien de nous. Qu'on dit qu'il est spirituel. Elle, c'est une sœur spirituelle. On aime tellement cela. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons la gloire du Seigneur? Ou est-ce que nous cherchons notre propre gloire? La gloire de ce monde. Pour qui est-ce que nous vivons? Pour nous-mêmes ou pour le Seigneur Jésus? Voilà donc, nous pouvons être des juges de mauvaises pensées, comme dit Jacques dans le verset 4. Et n'avez-vous pas fait une distinction en vous-même et n'êtes-vous pas devenu juge ayant des mauvaises pensées? Que le Seigneur nous aide et nous garde d'avoir des mauvaises pensées. Des pensées de jalousie, d'envie, de critique. Parce que c'est de cela que vient aujourd'hui des calomnies. C'est de cela que vient le fait qu'on peut ruiner un frère, une sœur, son nom. C'est de cela que vient tout ces critiques, ces paroles blessantes, ces exagérations. Exagérer, ajouter un petit peu, peut-être pour s'insinuer encore dans les bonnes grâces de quelqu'un, de donner des demi-vérités, pas tout à fait vraies. Bon, on parle énormément aujourd'hui. On parle tellement des personnes aujourd'hui. Et le Seigneur écoute tout cela. Est-ce qu'on pense que ce qu'on parle à la maison, derrière le dos d'un frère ou d'une sœur aujourd'hui, que le Seigneur est sourd à cela? Et il va juger toute parole oiseuse, dit la parole. Nous serons jugés par cela. Oh, que le Seigneur nous garde de maîtriser notre langue. C'est le sujet de demain, si le Seigneur le permet. Voilà donc la divinité de Christ. Si je crois en cela, est-ce que j'agis en rapport avec cela? Et aussi la grâce, dans les versets 5, 6 et 7. Celui que le Seigneur a aimé, celui qu'il a élu, celui qu'il a sauvé, celui ce pauvre, ce petit, ce qui est encore jeune, il était très précieux pour le Seigneur Jésus. Il ne faut pas le blesser. Garde-moi, Seigneur, que je ne sois pas en cause de chute pour un jeune frère, pour une jeune sœur. Ils sont confus, notre jeunesse aujourd'hui, mes chers amis. Nous le savons bien. Notre jeunesse est confus quand ils regardent ceux qui sont avant, ceux qui enseignent par leur conduite. Moi-même inclus. Nous vivons dans les temps très sérieux. Est-ce que nous vivons vraiment dans la présence du Seigneur chaque jour, avec tous nos actes? Eh bien, est-ce qu'on peut rectifier ces choses si on a donc découvert quelque chose dans sa conduite, dans son attitude vis-à-vis d'une personne? Est-ce qu'on peut encore rectifier? Oui, je pense qu'on peut. Il y a toujours temps pour rectifier. Dans les versets 8, 9 et 11, nous avons cette doctrine de la vérité, de la pleine inspiration, de l'efficacité, de la puissance de la parole de Dieu. C'est ici donc appelé la loi royale. Voilà donc quelques mots sur ces expressions. La loi parfaite et la loi royale et la loi de la liberté. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché, dit Romains 8, verset 2. Voilà la loi parfaite de liberté, c'est une loi qui libère. Si le Fils vous libère, vous serez libérés. Nous avons été donc libérés, affranchis. C'est de cela que vient notre expression affranchissement. Nous avons été affranchis de l'esclavage du péché, de ce moi, de la chair, de ce péché qui habite en nous. Donc nous ne sommes pas des esclaves de cela. si nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. Et la loi royale, eh bien, c'est presque dire le sommet de toutes les lois. Ça couvre toutes les autres lois, si vous voulez. Nous avons un verset en Romains 13. Romains 13, et verset 10. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. C'est toujours le prochain. L'amour, donc, est la somme de la loi. C'est la couronne de la loi. C'est la loi royale, l'amour. Manifester l'amour. Est-ce que nous manifestons l'amour, chers amis? Longtemps, j'ai pensé que l'amour, c'est une question de sentiment, d'émotion. Je ne le crois pas maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que les émotions sont liées à l'amour, mais l'amour, c'est avant tout une question de vouloir. Voilà ici une personne, un frère, une sœur que je dois aimer, mais elle mérite. Il est impossible. Je ne peux pas l'aimer. C'est vrai. On ne peut pas. Et c'est pour cela que Dieu nous vient en aide. Il dit, oui, je sais très bien que tu ne peux pas l'aimer. Je te donne mon amour à moi. Eh bien, Romains 5, 5, par l'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Voilà, sans excuse maintenant. Nous avons l'amour de Dieu pour pouvoir aimer. Et c'est une question de vouloir. Est-ce que je veux, est-ce que je permets à cet amour de, pour ainsi dire, couler de mon intérieur vis-à-vis de ce frère ou cette sœur? Il faut le vouloir. On peut empêcher cela si on décide. On peut aussi décider de pécher. On peut aussi décider de ne pas pécher. On peut décider d'aimer ou de laisser cet amour de Dieu toucher nos frères et sœurs ou de ne pas faire cela. C'est une question de vouloir. Et si je veux, le Seigneur me vient en aide. Et je peux donc aimer, ça veut dire de traiter mon frère comme Dieu me traite moi. Réfléchissons à cela, mes chers amis. Est-ce que nous traitons nos frères et sœurs comme Dieu nous traite? Comment est-ce que le Seigneur vous traite chaque jour? Il me traite ainsi. Je sais, je suis dégoûtant en moi-même. Je sais qu'en moi, en ma chair, n'habite point de bien. Et de plus que je vieillis, de plus que je découvre les choses, donc j'ai de dégoût. Et puis, il m'aime quand même. Chaque jour, je me lève, il me comble. Je l'attriste, je le confesse, il me pardonne, il me restaure. Au lieu de me punir, vous avez ce beau cantique, n'est-ce pas? Il y a encore un souvenir dans l'éternité, sa miséricorde. Au lieu de me punir, il me bénit. Est-ce qu'il ne vous traite pas comme ça aussi, chers amis, chers frères et sœurs? Et s'il me traite comme ça, et il sait tout ce qu'il y a au-dedans de moi, et il ne change pas son amour vis-à-vis de moi, est-ce que nous traitons notre frère et notre sœur comme ça aussi? Aimer. Aimer. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. C'est une chose que de connaître la doctrine du rassemblement. C'est une chose que connaître la doctrine de l'unité de corps de Christ. C'est aussi une autre chose que de s'aimer les uns les autres. Les deux choses ne doivent pas être séparées. C'est une précieuse chose que d'avoir le privilège de manifester l'unité de corps de Christ dans une harmonie ensemble et de s'aimer les uns les autres et de refuser de se séparer de tout mal, de toute iniquité, absolument. Eh bien, comment donc rectifier son attitude? Peut-être revenir à la maison et se mettre à genoux et dire, Seigneur, sonde-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui peut être une cause de chute pour mon frère et pour ma sœur? Nous pouvons être très sévères avec la vérité. Oui, c'est bien que la parole est un épée à deux tranchants, mais ça ne veut pas dire que moi je peux utiliser la parole pour couper mon frère. Parce que ça me coupe aussi. À deux tranchants, mes chers amis. À deux tranchants. Ça peut être toucher mon frère, mais ça me touche aussi. Et ça doit me toucher le premier. Il faut que je me juge premièrement avant que je juge mon frère. C'est le Seigneur qui enseigne cela. Briser les cœurs. Est-ce que ça existe aujourd'hui qu'on brise les cœurs? Bien. Fidèle à la doctrine, mais manquer de la compassion. L'apôtre Jacques l'exprime comme ça dans les versets 9, 10 et 11. Verset 10, « Car quiconque garde toute la loi et faillit en un seul point est coupable sur tout. » On peut dire fidèle à la doctrine avec tout son cœur, mais on manque dans sa manifestation de compassion, de patience, d'amour vis-à-vis de son frère, vous êtes coupable, entièrement coupable. Et le Seigneur le voit. Donc, être fidèle à la vérité, absolument. Connaître la doctrine, absolument. Croire dans ses vérités fondamentales, absolument. Mais orner, il faut orner la doctrine de Dieu, dit l'apôtre Paul à Tite. Orner cette doctrine par la vie qui est attrayante. Par la vie, c'est la vie de Christ qui se manifeste en nous. Et puis versets 12 et 13, l'effet du boomerang. Nous avons ici, dans ces versets 12 et 13, trois choses. Voyez avec moi. Parlez, agissez et manifestez miséricorde. Parlez, verset 12, des paroles. Agissez, verset 12, action, agir. Et miséricorde, verset 13, attitude. Trois choses, parole, action, attitude. Comment est-ce que je me conduis dans mes paroles? Qu'est-ce qu'il faut dire? Souvent, c'est pas facile de savoir quoi dire. Et même si on sait quoi dire, comment est-ce qu'il faut le dire? Vous voyez, on sait très bien qu'il faut parler de la vérité. Mais il y a aussi une manière de présenter la vérité. Comment est-ce qu'on présente la vérité? Avec douceur? Avec compréhension? Voilà la question qui se pose. Agir. Ne pas blesser. On cite souvent ce verset, n'est-ce pas, en Colossiens 4, verset 6, que nos paroles soient assaisonnées du sel, en grâce, assaisonnées de sel. Et on pense, ce sel, eh bien, sel, quand on met cela dans une plaie, ça brûle. Est-ce qu'on a tout souvent devant soi, il faut que cela a son effet dans une situation? Mais pour moi, le sel rend ma nourriture plus agréable, le sel. Donc, parler en grâce est d'une telle manière que ce qu'on dit, la vérité, est aussi acceptable pour ceux qui l'entendent, s'ils sont honnêtes. On peut le refuser, c'est sûr, si on n'aime pas cette parole. Mais pour nous, et comme le Seigneur, on a témoigné de lui quand il parlait dans la synagogue, on était émerveillé par ses paroles de grâce. Il pouvait aussi parler très droitement contre les pharisiens. Mais les pharisiens étaient des ennemis, n'étaient pas en faveur de ses paroles. Nos frères et sœurs sont des enfants de Dieu. Nous n'avons pas de droit de parler vis-à-vis de nos frères et sœurs comme le Seigneur a parlé contre les pharisiens, ses ennemis. Avec des frères et sœurs, on parle avec douceur, plein de grâce et attitude, avoir miséricorde. C'est beau ce mot français, parce qu'on voit la corde, cœur. C'est le cœur, parler avec le cœur, parler avec amour. Et toujours se souvenir des trois choses. N'oublions jamais que Jésus est Seigneur. Il est mon Seigneur, il est aussi le Seigneur de ce frère, de cette sœur. Deuxième chose, c'est que Dieu juge. Il va juger. Et troisième chose, la parole. Soit va me justifier, ou soit ça va me condamner. Voilà, se souvenir de tout cela. Et finalement, nous arrivons à notre section 14 à 26, la fausse et la vraie foi. Il y a ici trois sortes de foi, on pourrait dire. Il y a la foi morte, il y a la foi diabolique, et il y a la foi dynamique. La foi morte, c'est l'apôtre Jacques qui en parle ici quand il dit, et c'est exactement cette section que Martin Luther n'a pas compris. Mes frères, verset 14, quel profit a-t-il que quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas des œuvres? Dire, comme je viens de citer d'un Jean, là où il y a la vérité, il y a aussi toujours une imitation. On pourrait dire donc, et c'est juste, c'est la foi seule Remarquons cela, c'est la foi seule qui justifie. Mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la foi seule qui justifie. Mais la foi qui justifie ne reste jamais seule, n'est pas seule. Il y a des fruits. Il y a toujours des fruits qui sont liés à une foi qui justifie. Une foi qui n'a pas de fruits, pas d'œuvres, c'est pas la vraie foi. La foi qui sauve et qui justifie ne reste pas seule, mais elle apporte la vie et le fruit. Par exemple, nous ne pouvons pas toucher un câble d'électricité et rester quand même le même. C'est pas possible. On ne peut pas croire en Jésus-Christ, avoir la vie de Christ en nous, sans avoir des manifestations de cette vie. Et les fruits de l'esprit. C'est une négation, c'est un paradoxe. Une foi morte. Les démons, ils croient aussi. Les démons ne sont pas des athées et pas des idolâtres. Parce que les démons croient dans l'existence de Dieu. Ils lisent seulement l'évangile. Et ils ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Et ils croient que Dieu est un. Ils ne sont pas des idolâtres non plus. Ils croient donc, mais ils frissonnent. Dit Jacques, ô homme vain, même les démons croient. Je pense une foi qui les sauve. Quelle est donc la foi qui sauve? La foi qui sauve doit avoir trois éléments. Un élément intellectuel, un élément qui porte à l'émotion, et aussi un élément de volonté. Laissez-moi l'expliquer avec une illustration et j'ai fini. J'ai déjà donné cette illustration il y a bien des années. Voilà un homme qui se trouve sur une île dans l'océan. Et puis, il voit que la mer monte, l'océan monte. Et il est effrayé parce qu'il réalise qu'il va se noyer. Il est désespéré. Il est en danger. Il va périr. Mais qu'est-ce qu'il voit? C'est pas possible. Un petit bateau à l'autre côté de cette petite île. Est-ce que c'est vrai? Il est ému de le voir. Il s'approche, il le touche. Et c'est vrai, c'est réalité. Ses émotions disent oui, c'est réalité. Eh bien, il se dit, mais ça c'est merveilleux. Un bateau. Son intelligence lui dit, voilà, ici une occasion de te sauver. Tu peux être, c'est pas nécessaire que tu périsses. Tu peux être sauvé par ce bateau. L'intelligence. Émotion, l'intelligence. Mais il n'est pas encore sauvé. Et l'eau monte. Et c'est maintenant à ses épaules. Et il est toujours là, dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut